Il est 18h30 sur la Clé des Ondes et c'est l'heure de Point Chaud. Point Chaud, tous les jours de 18h30 à 19h, c'est un tour de l'actu social et culturel sur la Clé des Ondes. Ce soir, on vous propose de réentendre l'essentiel de ce qui s'est dit dans notre plat de résistance. C'était ce midi sur notre antenne.
Aujourd'hui, évidemment, c'est la rentrée du plat de résistance et nous allons avoir en ligne François Richard qui va nous parler de cette situation politique totalement inédite en France avec un président qui va à la pêche d'un Premier ministre qui ne correspond pas du tout aux résultats des élections législatives. Donc, on va avoir François en ligne. François, tu m'entends ?
Bien sûr, je suis là, oui. Bonjour.
Bonjour François. Alors on vient vers toi parce que quand même cette situation est quand même assez extraordinaire. Alors on prend les mêmes ou on recommence, on appelle Cazeneuve à la rescousse, Bertrand, et c'est quand même une situation politique très préoccupante.
Oui, ce qui est très préoccupant, c'est que la séquence qu'on est en train de vivre en cette fin de mois d'août, début septembre, est une séquence de mise en scène du barrage à la gauche. Alors que les élections législatives, il y a 2 mois, s'étaient organisées autour d'un barrage à l'extrême droite. On a oublié complètement la question de l'extrême droite, et là, depuis une semaine, toutes les voix se sont élevées pour dire « Ah non, Lucie Castet, sûrement pas. Macron a organisé donc ses entretiens en s'assurant bien qu'il y aurait censure systématiquement de tous les partis de droite, d'extrême droite, du centre, en cas de ministre LFI, puis après Jean-Luc Mélenchon a dit « mais peut-être qu'on peut soutenir un gouvernement sans ministre LFI », et à ce moment-là il est apparu clairement, et pour tout le monde, c'était le programme du nouveau Front Populaire qui faisait problème, avec en plus le MEDEF qui est intervenu à ce moment-là aussi en force pour dire que c'était absolument inacceptable, et donc aujourd'hui c'est tout sauf la gauche. Voilà le scandale politique. Outre les questions institutionnelles d'un gouvernement démissionnaire qui a duré quand même 2 mois et qui a préparé les lettres plafond pour le budget, on a changé complètement de pied et aujourd'hui l'ennemi principal c'est la gauche et notamment au sein de la gauche, la France insoumise. Voilà la situation actuelle et c'est une situation moi que je trouve extrêmement inquiétante parce qu'elle continue de faire... avancer en fait le Front National, le Rassemblement National. Alors pourquoi ? Parce que en refusant de nommer un gouvernement du nouveau Front Populaire, Macron cherche le mouton à 5 pattes, l'équation impossible d'une coalition, et il s'est résolu à essayer de trouver quelqu'un qui pourrait construire un gouvernement qui ne subirait pas la censure. Et ce qui veut dire en clair que ce gouvernement serait forcément sous la dépendance d'une menace de censure du Rassemblement National. Donc, une situation où les électeurs ont très clairement le message principal de ces élections en juillet, c'était non au Rassemblement National, on ne veut pas donner les rênes de l'État au Rassemblement National. On est passé aujourd'hui, Macron nous amène à une situation où... le futur gouvernement, que ce soit celui de Cazeneuve ou que ce soit celui de Bertrand ou de quelqu'un d'autre qui ne soit pas du NFP, ce gouvernement sera sous la menace d'une censure du Rassemblement National qui sera en position de fixer ses conditions. Et voilà le scandale de cette rentrée politique.
Et là, aujourd'hui, en fait, on l'avait quand même senti avec cette dissolution, que c'était quand même un boulevard pour Bardella et pour la maire Le Pen. Et on voit bien qu'aujourd'hui, le choix politique que Macron fait, c'est toujours dans le même sens.
Oui, mais c'est un peu ce que je viens de dire. Il veut absolument sauver sa politique de l'offre, c'est-à-dire l'attractivité pour les capitaux de la France, c'est-à-dire la politique pro-business que lui a rappelé le MEDEF, et que le MEDEF... pour laquelle le MEDEF remercie Macron sur ces dernières années. Et il fait tout, ce qu'on peut appeler le bloc bourgeois, certains, je crois que ça vient d'intellectuels italiens qui utilisent ce terme, qui vient de Gramsci. Le bloc bourgeois veut tout faire pour que rien ne change. et donc que cette politique de l'offre reste, alors que, qu'il s'agisse de l'électorat populaire, du nouveau Front populaire, ou même d'une partie de l'électorat du Rassemblement national, c'est cette politique de l'offre qui est condamnée, à travers le refus de la réforme des retraites, à travers l'aspiration à une augmentation des salaires, à travers l'aspiration à une réforme fiscale. C'était le cœur du programme du NFP, justement, et c'est ce qu'il veut absolument éviter.
Alors Sandra voulait te poser une question.
Oui, donc au regard de ce qui se passe, il nous semble à tous, je crois, que la démocratie, là, il n'y a plus de traces. Est-ce que tu penses que c'est tenable très longtemps pour Macron de piétiner comme ça toute démocratie ? Parce qu'il y a vraiment, on ne voit plus du tout. Hein. Où est-ce qu'il y en a ? Est-ce que c'est tenable très longtemps, cette histoire-là ?
Malheureusement, je pense que oui, la démocratie, elle est fragile. Elle dépend toujours de la possibilité d'une société de se lever pour défendre ses droits. Et je crois que là, tout va dépendre, hein, dans les semaines et les mois qui viennent, de la capacité de notre société à réclamer effectivement cette démocratie qui est piétinée, comme tu le dis. Mais ça n'est pas acquis. Ça n'est pas acquis. Alors je pense que ce que fait Macron, 2 mois de gouvernement démissionnaire, 17 ministres qui votent pour la présidence du Parlement, et qui permet à ce moment-là à une macroniste, hein, Gaël Braun-Pivet, d'être élue présidente de la Chambre, alors que à 13 ou 20 près, c'était le représentant du NFP qui aurait pu être élu, piétinant ainsi la séparation des pouvoirs entre exécutif et législatif. Tout ça, c'est des choses effectivement extrêmement graves, mais constitutionnellement, je crois savoir, avoir lu, que rien n'obligeait Macron de nommer un nouveau gouvernement dans un délai donné. Il y a d'ailleurs une proposition de loi des communistes, hein, qui vise à réduire ce délai à 15 jours. Mais rien dans la Constitution de 58 ne prévoyait ce cas de figure. Donc je ne pense pas que constitutionnellement, il puisse être attaqué. Est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il faut sortir de la Ve République. Il faut effectivement... un des objectifs démocratiques, et qui était celui du NFP d'ailleurs, c'est de passer à un autre type de régime qui enlève au président de la République tous ses pouvoirs. On est effectivement sur la pente d'une sorte de régime illibéral.
Et là, la question de la destitution du président, elle est portée par le groupe de la France Insoumise, mais est-ce qu'elle a une chance de donner quelque chose, ou est-ce que c'est simplement une pression sur le président ?
Alors, je parle en mon nom, là. Hein. Alors, moi, je suis à cheval un peu sur le syndicalisme. Je suis ex-secrétaire de la FSU et sur la politique, puisque je suis membre de Ensemble. Je donne mon avis personnel, là. Je pense que non. Je pense que la démarche, hein, l'article 63, si je me souviens bien, de la Constitution, qui permet de destituer un président de la République, implique des contraintes extrêmement difficiles. Il faut les 2/3 des 2 assemblées pour destituer. On sait déjà que toute une série de forces politiques refusent ça. Je pense que ça a peu de chances d'aboutir. Ça a l'avantage de montrer qu'un président n'est pas au-dessus complètement du Parlement, mais ça a le désavantage, si jamais même ça pouvait passer, de précipiter une présidentielle. Et je pense que le fait d'avoir mis en minorité le macronisme et défait le macronisme sur un plan législatif est plus intéressant pour nous que de précipiter une présidentielle. Mmh. Ou à nouveau, la question de l'homme, du sauveur, etc. sera posée. Le présidentialisme, c'est justement le cœur de la Ve République. Donc je pense qu'il vaut mieux s'accrocher au parlementarisme et à la victoire législative.
Alors, on a quand même un parti socialiste qui est extrêmement divisé actuellement.
Et oui, c'est bien pour ça que Cazeneuve est une bonne solution pour Macron. C'est qu'il espère bien, si jamais il le nommait, il espère bien, à travers Cazeneuve, diviser le parti socialiste, puisque toute l'aile droite du parti socialiste, hein, les Delgas, Hidalgo, Hollande, Rossignol, Geoffroy, j'en oublie encore, hein, qui représente cette aile droite, ne voterait pas la censure d'un gouvernement Cazeneuve. Donc ce serait une façon d'affaiblir le PS, de diviser le PS et bien sûr de diviser le nouveau Front populaire, de porter une atteinte. Et je pense que c'est un de ses objectifs.
Et là, il y a une donc initiative de faire des grandes manifestations le samedi 7 septembre, justement pour protester contre ce coup d'État, ce coup de force de Macron contre le Parlement, justement. Et je crois que il faut analyser un peu ce que peut donner cette manifestation.
Oui, alors j'espère que ces manifestations vont être massives. Hein, j'espère que la plus grande partie de la gauche y sera. J'ai vu que les socialistes, malheureusement, n'y appellent pas. Mais je pense que c'était une question tactique de la part de Faure qui ne pouvait pas, sans s'affaiblir face à son aile droite, apparaître comme suiviste par rapport à la France insoumise. Mais au-delà de ça, bien évidemment qu'il faut investir cette date du 7 septembre pour lancer la première étape d'une bataille pour la démocratie. Je regrette, là aussi je parle en mon nom personnel, hein, que l'initiative ait été prise par un parti politique au lieu de concerter cela avec les autres partis du Nouveau Front Populaire et pourquoi pas les syndicats et les associations de façon à en faire quelque chose de plus massif. Mais maintenant que c'est lancé, il faut y aller.
Et en même temps, il y a aussi eu, pendant cet été, ils ont pris des décrets, ils ont pris des dispositions qui étaient extrêmement dures, notamment sur la question d'asile-immigration, et il semble que quand même, je veux dire, ça ne soit pas du tout légitime.
Oui, alors ça pose la question de la limite entre la gestion des affaires courantes et une gestion politique qui devrait être interdite à un gouvernement démissionnaire. Je crois savoir qu'il s'agit de quelque chose comme 1640 décrets qui ont été pris. Hein, et ces décrets, il y a des décrets effectivement indispensables pour, verser les salaires, etc. Mais d'autres qui sont beaucoup plus politiquement sensibles, comme tu me dis, sur l'immigration. Les lettres plafond sur le budget.
Exactement.
Qui donne un cadre pour la discussion budgétaire qui doit s'enclencher le 1er octobre sur des bases extrêmement strictes, hein, puisqu'il reconduit les limitations du budget de l'année dernière. Et même la ministre de l'Éducation nationale a regretté les 700 millions que l'Éducation nationale doit donner alors qu'elle est déjà dans une situation catastrophique.
D'ailleurs, il y a quand même un appel syndical à faire la grève dans l'éducation nationale le 10 septembre et qui connaît un certain écho puisque, notamment dans le premier degré, on rajoute des évaluations aux évaluations sans aucune concertation avec les personnels et on sait très bien que les moyens vont être extrêmement limités.
Oui, ben j'espère que cette grève du 10 septembre va être très suivie. Alors, j'ai observé qu'elle était très unitaire dans le premier degré. Pour l'instant, dans le second degré, il n'y a que la CGT Éduc et Sud, je crois, qui appellent dans les collèges. J'espère que ça pourra s'élargir. Et il y a une autre initiative syndicale, c'est le 1er octobre.
Alors, parle-nous.
Extrêmement importante.
Parle-nous du 1er octobre.
Eh bien oui, c'est à l'appel de la CGT, de la FSU, de Solidaire. Il y a un appel à la grève le jour même où doit débuter la discussion budgétaire au Parlement, dans le nouveau Parlement élu en juillet. Donc cette grève est extrêmement importante pour rappeler la revendication de l'abrogation de la réforme des retraites, de l'augmentation des salaires, d'une réforme fiscale. Je pense que c'est une étape, un horizon essentiel de ce mouvement social que j'appelle de mes voeux pour débloquer la situation, parce qu'elle ne se débloquera pas au niveau des appareils politiques seulement. S'il n'y a pas mobilisation de la société, on ne défendra pas la démocratie et on n'obtiendra rien.
Merci beaucoup François pour ton intervention. Avec les vieux fourneaux et le plat de résistance. Et nous avons la chance aujourd'hui d'avoir Sylvie Nogny avec nous, qui va nous faire découvrir les interviews qu'elle a faites à Uzest, notamment avec la première de Salvatore Mara.
Oui, on va préciser ça. La Clé des Ondes participait cet été à la radio Uz, la radio du Festival d'Uzest, animée par Antoine Chao. Cette année, participait aussi le collectif Transmission, qui s'était joint à l'équipe. Transmission, c'est une équipe qui cultive le savoir-faire radiophonique, qui a créé une école, peut-être vous la connaissez, s'appelle La Cassette, dans le but de transmettre des bases de création sonore à un large collectif. À cette joyeuse équipe se sont joints, au gré des émissions, de nombreux intervenants, des musiciens, théâtreux, danseuses, poètes. Les émissions, elles, se déroulaient en public, au milieu du parc de la Collégiale, et le public est invité, bien sûr, à participer. C'est donc une radio vivante, enrichie des nombreuses tables rondes, qui se faisaient elles-mêmes l'écho de des combats sociaux, culturels, politiques qui se déroulent actuellement. Les entretiens du Lavoir se déroulaient tous les matins dans le parc de la Collégiale. L'un d'entre eux a beaucoup rebondi pendant le festival. C'est celui du rôle des artistes et des acteurs culturels vis-à-vis de la montée du fascisme. On va en reparler plus tard. Mais ce ne sont pas les seuls acteurs et actrices concernés par cette poussée des idées d'extrême droite. Une autre table ronde organisée par Lydie Delmas, donc de la CGT, avec Magali Della Souda et des responsables syndicaux d'Italie, d'Allemagne et d'Espagne, a relié cette question à celle du droit des femmes. Participer donc Salvatore Mara, comme tu le disais, Graziella, Salvatore Mara, qui est donc responsable du secteur international de la CGIL italienne. Et donc, j'ai interrogé Salvatore Mara, responsable de ce syndicat, sur la façon dont il envisage le rôle spécifique des syndicats sur la question.
Merci Salvatore de répondre à la question de la clé des ondes. Dans cette table ronde, qui portait donc sur quand même les dangers pour le féminisme et les dangers pour les femmes de la montée de l'extrême droite, Tu as beaucoup intervenu sur la dimension internationale nécessaire pour ce combat, mais tu as aussi intervenu sur la spécificité du syndicat. Et je voulais te faire peut-être un peu plus creuser pour nous, parce que nous, à la clé des ondes, on a bien sûr connaissance de l'ouvrage de Magali Della Souda, femme de droite, qui a été exposée ici. On a tous ces éléments-là en tête, mais pourquoi est-ce que le syndicat aurait une responsabilité particulière et a des atouts particuliers dans cette lutte contre l'extrême droite au niveau des femmes?
Il ne faut jamais oublier que les syndicats en Italie, mais aussi dans d'autres pays, ont été dissous par les partis fascistes, néofascistes et d'extrême droite. Et je l'ai dit dans le débat, je le répète, la raison pour laquelle les syndicats sont considérés deux ennemis par les forces d'extrême droite, c'est parce que les syndicats rendent les hommes et les femmes égaux. Ils sont les mêmes dans les endroits de travail. Donc les conventions collectives ont le droit de faire de façon qu'il y a une lutte contre les discriminations, voire aussi contre les femmes et pour les questions de genre. Pourquoi les femmes ont un rôle particulier dans cette lutte? Parce que les femmes et le corps des femmes est un champ de bataille pour l'extrême droite. Alors, c'est particulièrement important que les syndicats se réforment à l'interne, que deviennent plus féministes. Alors, je suis content, par exemple, que la CGT, pour la première fois, soit guidée par une femme. Je crois que ça va changer radicalement aussi les luttes et les batailles de la CGT. La CGIL a été aussi guidée par une femme avant le présent secrétaire général. Et il faut insister pour que les syndicats se réforment, introduisent des normes aussi à leur intérieur pour que des femmes participent. Nous avons introduit, par exemple, des quotas à la CGIL pour avoir une participation, une représentation égalitaire entre hommes et femmes parmi nos élus.
Oui, parce qu'il n'y a pas que la question des présidents et des secrétaires nationaux. Il y a tous les échelons du syndicat qui sont en cause, là.
Tout à fait.
Et c'est là que, généralement, il y a beaucoup de militantes à la base. Et plus on monte dans les hiérarchies, moins il y a de militanteux, et plus il y a de militants et de responsables masculins.
Ça vient aussi d'une masculinisation du marché du travail. Hein. Il ne faut jamais oublier que la participation des femmes au marché du travail était toujours plus basse. Alors maintenant, où la participation des femmes monte, il faut que la participation des femmes au marché du travail se traduise aussi dans une participation au syndicat. Mais ça ne vient pas d'elle-même. Hein. Il faut la pousser avec des règles. Et c'est la raison pour laquelle, je répète, la CGL, par exemple, il y a presque 20 ans, a introduit des normes très fortes pour avoir une représentation égalitaire de deux genres, aussi dans nos instances représentatives, à tout niveau, hein, régional, départemental et national. Et il faut insister sur cela au niveau européen. Et la Confédération européenne des syndicats joue un rôle très fort dans cet enjeu qu'il faut pousser et insister.
Merci Salvatore.
Merci.
Voilà, donc on a entendu Salvatore Mara, donc responsable de la CGIL, et je ne pourrais pas vous faire les échos de tous les débats qui ont eu lieu à Uzès, mais c'était d'une très grande richesse. Il y a eu plusieurs interventions d'une juriste en droit international bien connue, je crois qu'elle a déjà eu des interventions sur la clé des ondes dans l'émission de Jean-Pierre Lefebvre. C'est Monique Chemillet-Gendreau qui est intervenue à la fois sur ce qui se passe en Kanaky et donc la crispation française sur ce territoire, une crispation de tout ce qu'il y a de plus colonial sur ce territoire. Et elle est intervenue aussi sur Gaza, puisqu'il y a eu d'autres débats sur Gaza. Et là, c'est donc l'émission sur la Palestine qui se feront l'écho de ces débats-là. Mais j'ai interrogé Monique Chemillet-Gendreau et je lui ai demandé pourquoi elle avait choisi de venir à Uzest et pourquoi elle avait choisi d'intervenir sur ces deux sujets, la Kanaky et la Palestine.
Alors, d'abord, ce n'est pas la première fois que je viens à Uzest. Je suis venue il y a plusieurs années, longtemps, souvent, dès que j'ai fait la connaissance de Bernard. Parce que je pense que ce qui est intéressant, très intéressant à Uzest, qui fait l'originalité profonde de ces rencontres, c'est que la conception qu'a Bernard de la musique est une conception politique. À la fois politique au sens d'un combat avec soi-même et de la difficulté de la relation aux autres. Et Bernard vit ça très fort, l'exprime très fort et le dit très bien. Et il était normal qu'il y a longtemps déjà, il introduise dans son festival des débats politiques, des conférences sur les grandes questions d'aujourd'hui, que ce soit les questions internes, internationales, féministes, etc., éducatives, tout ça. Voilà, donc je suis venue à Uzès dans de nombreuses occasions comme attirée par ça et en accord avec Bernard. Et là, c'est vrai qu'après quelques années, parce que bon, pour des raisons personnelles, je ne suis pas venue pendant 2 ou 3 ans. Et puis là, je reviens et c'est tout naturellement que, étant spécialiste de droit international par ma carrière professionnelle d'universitaire, je suis évidemment sur ces dossiers brûlants qui sont les échecs du droit international. Et ce qui est intéressant, vous voulez faire le lien et vous avez raison, entre le problème de la Kanaky, que la France appelle Nouvelle-Calédonie, tel qu'il se pose aujourd'hui, qui est dans une impasse, le problème de la Palestine, dont on reparlera mardi, une autre impasse, encore plus effroyable, parce qu'en nombre de morts, c'est incommensurable. Ce qui est intéressant, c'est de voir l'échec du droit international. Et pourquoi le droit international a échoué ? Parce qu'il n'est pas sorti de la contradiction, vouloir la fin de la domination et maintenir la domination. Et au fond, quand on a créé les Nations Unies, parce que pendant des siècles, il n'y avait pas eu de droit international, c'était le rapport de puissance, les États se faisaient la guerre et puis on faisait des conquêtes. Mais quand on a, d'abord avec la Société des Nations en 1918, c'était un échec aussi, quand en 1945, on a dit, allez, cette fois-ci, on va faire une organisation universelle, on n'a pas su régler la contradiction. C'est-à-dire qu'il y avait le potentiel de la lutte contre la domination, avec le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, l'égalité des droits, la Déclaration universelle des droits de l'homme, il y avait des éléments très forts pour aller vers la fin des dominations. Mais en même temps, dans le même mouvement, dans le même texte, on sanctuarisait les dominants avec le Conseil de sécurité et les membres non permanents et leur droit de veto. Voilà, et on est toujours là. Et ce dont je parlais aujourd'hui, de cette volonté dominatrice de la France qui veut jouer dans la cour des grands, être une puissance de l'Indo-Pacifique, ce qui est ridicule, c'est parce que la France est membre permanent du Conseil de sécurité, qu'elle est dans cette position, elle fait partie des dominants, et elle ne veut pas lâcher ça. Et donc voilà, et donc c'est comme ça qu'il faut approcher les problèmes, parce qu'il ne suffit pas de lutter pour la Kanaky, de lutter pour la Palestine. Il faut lutter pour que le droit international se purge de cette contradiction. Est-ce que le droit international est basé sur l'égalité des peuples, l'égalité des humains, la fin de la domination? Alors il faut réformer la charte et arrêter avec le Conseil de sécurité.
Et vous l'avez entendu, donc cette Monique Chemillet-Gendreau, même si elle est un peu âgée maintenant, mais vous entendez que sa réflexion personnelle a gardé toute sa jeunesse et toute sa vigueur. Et elle a beaucoup contribué à la réussite des tables rondes qui ont suivi. Alors, Monique a participé à une conférence le mardi 20 avec Ronnie Broman, président de Médecins Sans Frontières, André Rosweg, qu'on ne présente plus à la Clé des Ondes, porte-parole de l'UJFP, et Anne Naroui du collectif Al-Karara. Donc, c'est un village donc, de la bande de Gaza qui est jumelé avec Saint-Pierre d'Aurillac. Et on écoute le témoignage d'Anne Naroui, donc, qui est responsable de ce collectif Al-Karara, et qui est allée d'ailleurs sur place dans la bande de Gaza et qui nous parle d'un ouvrage dont on a déjà parlé à la Clé des Ondes, mais il faut continuer. C'est l'ouvrage d'Ibrahim Kachan sur la vie sous les bombardements. Bonjour Anne.
Bonjour.
Alors c'est quoi le collectif Al-Karara ?
Alors le collectif Al-Karara trouve son origine au début des années 2000 et fait suite à un jumelage qui existait entre la commune de Saint-Pierre-d'Aurillac, donc en Sud-Gironde, et la commune d'Al-Karara, jumelage qui avait été créé dans le cadre des jumelages entre des communes françaises et des camps de réfugiés palestiniens. Et par l'intermédiaire, à l'époque, de Jacques et Françoise Salles, qui étaient des militants pour la paix ici en Gironde, nous avons rencontré Ibrahim Kachan, donc qui était aussi, lui, élu à la commune d'Al-Karara. Et cette rencontre avec Ibrahim Kachan et Michel Hilaire, qui était le maire de Saint-Pierre-d'Aurillac à l'époque et conseiller général, permis ce jumelage. Bon. Et puis, quand le Hamas est arrivé au pouvoir à Al-Karara, les relations devenaient difficiles ou impossibles, en tout cas dans les valeurs qu'on pouvait porter. Et Ibrahim Kachan a créé de son côté une association pour le développement humain et Saint-Pierre-d'Aurillac a créé le collectif Solidarité Al-Karara pour faire perdurer les relations et les actions entre les deux communes.
Alors aujourd'hui, le collectif porte un ouvrage de témoignage « Vivre sous les bombardements à Gaza », je crois que c'est le titre.
La
vie sous les bombardements d'Ibrahim Kachan. Oui. Donc comment vous avez rencontré Ibrahim et quels sont vos liens avec cet homme qui continue de témoigner jour après jour ?
Ibrahim, a travaillé très longtemps pour l'UNRWA. Il travaillait à l'UNRWA et puis c'est un militant pour la paix. C'est un moi c'est les mots que j'utilise. En tout cas, c'est un laïc. C'est important de, même si ça n'a pas forcément d'équivalent dans la société palestinienne, mais en tout cas, une personne qui a toujours travaillé pour l'égalité, pour la paix, et donc son action se situe pour l'émancipation des personnes en général, que ce soit des enfants, des bénévoles, parce qu'ils forment beaucoup de bénévoles, des femmes. Et Ibrahim, c'est aussi un bédouin, puisqu'il est issu d'une famille bédouine, de tradition, de contes. Et de conteurs et de poètes. Et nous avions fait un petit livre il y a quelques années sur des écrits qu'il avait faits. On les avait traduits en langue française et on en avait édité un petit recueil. Et depuis le 7 octobre, Ibrahim a écrit. Il a écrit comme il sait le faire, sans savoir qu'il avait un pouvoir littéraire ou autre. Juste, il a écrit. Besoin, j'imagine, d'exprimer ces situations terribles dans lesquelles il se trouve.
Des textes qu'il vous a envoyés par mail.
Des textes qu'il nous a envoyés par mail, qui ont été traduits par Samia Mallier, comme elle fait toujours depuis très longtemps. Et nous, le collectif, on les a diffusés parce que aussi une de nos actions, c'est de parler de la Palestine, de diffuser l'information et de ne pas les oublier. Et ces textes ont touché beaucoup de personnes et ont touché